sur les 10 000 personnes qui ont perdu 30 kilos sans la reprendre pendant 5 ans et demi, il y en a un peu plus de 6 000 qui ont dit « Ok, moi, le meilleur moyen pour tenir mon déficit calorique à moyen et long terme, c'est d'avoir une grande... »
Du rééquilibrage alimentaire. L'émission réservée à ceux qui veulent reprendre leur santé en main tout en continuant à vivre une vie sociale épanouie. Chaque semaine, venez discuter alimentation, mode de vie, perte de poids et bien-être avec Maël Brosseau.
Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et je suis vivant. Je suis vivant, mais je suis rouillé puisque ça fait 3 fois que je reprends l'introduction, tellement ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode de ce foutu podcast. L'intro musicale que vous venez d'entendre, elle a 6 ans et demi, 7 ans quasiment. Et là, je vous enregistre l'épisode 93, alors que le dernier épisode, l'épisode 92, a été publié il y a 16 mois. Alors, est-ce qu'au rythme actuel d'environ un épisode par an, on arrivera à l'épisode 100 un jour, peut-être? L'épisode sera incroyable. Bref, le truc hallucinant, c'est qu'avant d'enregistrer celui-là, que vous écoutez, je suis allé faire un tour dans les chiffres. Alors, ok, en 2018, 2019, 2020, cette émission était le podcast numéro 1 en France en nutrition. Ok, depuis j'ai publié juste quelques épisodes à droite à gauche, enfin peut-être depuis 2021, une dizaine d'épisodes maximum il me semble. D'accord, mais malgré ça, malgré l'absence de régularité et de contenu nouveau, inédit sur cette émission, il y a toujours des milliers d'écoutes tous les mois. Donc bonjour aux nouveaux qui connaissent le mail de l'époque en ayant écouté les vieux podcasts, mais qui n'avaient encore jamais entendu un épisode au goût du jour. Je ne promets pas que ça soit beaucoup meilleur en termes de qualité de production. Comme vous pouvez le voir, on est toujours dans un mode artisanal, malgré le fait que tout l'environnement et le podcast, l'industrie du podcast, se soit largement professionnalisé. Bon, voilà, hein, ça, ce qu'il y a à l'image parle... Bad swap, pour ceux qui l'écoutent uniquement en audio, j'ai un espèce de trépied chinois que j'ai acheté dans un marché ici en Asie pour 1 euro, sur lequel est accroché un micro qui est censé être un micro-cravate. Bref, c'est pas du tout professionnel et ça se voit absolument, donc on va essayer de faire comme d'habitude et élever la barre en termes de contenu, même si le contenant n'est pas forcément au niveau. Et salut aux anciens qui sont là depuis un moment et qui ont contribué à faire en sorte que ce podcast était absolument énorme dans le milieu à une époque où le format était beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui. Dans les années 2018, 2019, 2020, finalement, le podcast était relativement niché, alors qu'aujourd'hui, ça a complètement explosé. Voilà. Donc, vous voyez, je le répète, le format a évolué, mais j'enregistre toujours dans des conditions discutables, avec une qualité discutable, et le niveau de langage volatile est toujours bien présent. C'est pas pro de dire putain et haute grossièreté, mais ça risque d'arriver à plusieurs reprises aujourd'hui comme à l'époque. On verra où ça nous mène. Malgré le fait que, je vous rappelle, le podcast est scripté entièrement. Pourquoi? Pour les nouveaux, pour ceux qui ne se souviennent pas, si j'ai eu le malheur de faire plusieurs podcasts, d'enregistrer plusieurs épisodes qui n'étaient pas scriptés, donc pour lesquels je n'avais pas écrit la trame précise du podcast à l'avance, et c'est des épisodes qui ont duré 1h45 parce que je pars toujours sur des tangentes et des exemples et que je finis par recouper et par regrouper à la fin, et ça fait des podcasts qui sont honnêtement extrêmement longs et beaucoup trop remplis d'informations diverses et variées, donc je ne pense pas que ce soit propice au fait de les retenir et de mettre en application. Donc comment là, on a le script, je lis mon script, j'essaye de sortir le moins possible comme ce que je fais actuellement, et comme ça on reste sur un format de 1 heure et tout le monde est content et on a une idée claire et précise de ce qui vient de se passer pendant l'épisode et de ce qui doit se passer à la suite de l'épisode en termes pratiques. Voilà, bon, on va parler de nutrition aujourd'hui. Wow. Et quoi de mieux pour ça que d'être actuellement dans le pire endroit du monde en ce qui concerne la bouffe, à savoir Manille aux Philippines. Je sais, ça ne se voit pas trop là à l'écran que je suis à Manille aux Philippines, mais je suis à Manille aux Philippines Et après avoir été dans une trentaine de pays au cours des dernières années, c'est de très loin, très très loin, la pire expérience culinaire qui existe dans mon catalogue. Vraiment. Je suis allé en Afrique, en Europe, en Asie. Manille, sans déconner, il n'y a pas d'histoire de pincette, de respect de la culture ou pas. Je trouve, moi, Maël Brosso, personnellement, que la nourriture ici ne correspond pas à mes goûts. Et par un hasard immense, vraiment un hasard incroyable, sur 7 de mes amis qui sont allés aux Philippines récemment, la conclusion est strictement la même. Alors non, je ne me suis pas reconverti en guide touristique ou en agence de voyage pendant les 15 derniers mois. Si je vous parle de ça, c'est pour une raison précise, applicable à votre rééquilibrage alimentaire. Pour le contexte, en Asie, on ne fait pas à manger chez soi. Premièrement, la plupart des appartements sont très mal équipés pour cuisiner. Deuxièmement, la plupart des appartements sont très petits, donc faire cuire du poulet, c'est la garantie d'embaumer la chambre avec une odeur moyennement agréable. Et troisièmement, ça coûte seulement 15-20% plus cher de manger au resto ou de la street food quand on est en Asie. Donc, depuis 2 mois que je suis là, j'ai jamais cuisiné un seul repas et c'est toujours comme ça quand je suis en Asie. Donc, vous avez l'idée bien ancrée dans votre tête qu'il faut manger varié. Plus rien à voir avec l'Asie, c'est globalement en France, on a, et ailleurs dans le monde occidental, on a l'idée qu'il faut manger varié, grâce ou à cause des pubs de France Télévisions. Vous savez, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et il y en avait deux de plus, je ne sais plus lesquels, mais c'était pas mal fait d'ailleurs, ces pubs, c'était pas mauvais comme slogan, puisque je m'en souviens encore aujourd'hui. Le truc, c'est que ça a probablement autant d'effets que les images de poumons cancéreux sur les paquets de clopes. C'est choquant au début, mais l'humain s'adapte à tout et reste persuadé que ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que me disait mon frère hier vis-à-vis de la relation à la mort. Il n'y a que deux réactions quand on contemple la sienne. Le déni, en la repoussant comme un truc très lointain qui n'arrive qu'aux autres, et la protection par l'absurde en se disant que tout le monde meurt et que ce n'est pas grave puisque rien n'a de sens. Même si un argument pareil s'ébranle très vite dos au mur. Donc, pour notre bouffe variée, c'est un truc banalisé et c'est même une platitude qu'on resserre sans contexte. Tout le monde a l'impression de savoir, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Oublie pas de manger varié. Oublie pas de manger varié. Il faut que tu manges varié. Alors, quoi ? Je dois faire McDo et KFC pour varier ? Techniquement, si on se fie à l'essence du mot varié, si je mange McDonald's et KFC, je varie. Je ne mange pas toujours au McDo ou pas toujours au KFC. Et là, on va dire, non, mais il faut varier les légumes. Donc quoi, je dois manger des brocolis et des haricots verts. À nouveau, c'est varié de manger des brocolis et des haricots verts. Après, on va dire, non, mais tu dois varier plus que ça. Quoi, je dois aussi manger des poivrons. Oui, et en fait, il faut varier tout le reste. Donc, manger varié, c'est extrêmement large. Ça manque de précision. Tout le monde a une idée plus ou moins différente et lié à son contexte de consommation personnelle de ce qu'est manger varié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Sans déconner, ça veut dire quoi manger varié ? Votre définition de manger varié dépend de votre vie, de votre enfance, de votre appétence à la préparation des repas, de vos goûts et vos habitudes alimentaires. Donc, pour un de mes potes dont la famille entière est en surpoids, manger des légumes, c'est manger la sauce tomate de la pizza. Et c'est très sérieux. Quand j'étais gamin et que je mangeais chez lui, la sauce dans le fond de la pizza était sérieusement considérée comme un légume. Je ne sais plus dans quel contexte exact, mais j'ai entendu sa mère mot pour mot me dire « Mais si, il y a des légumes là dans ton repas, les tomates dans la pizza. » Donc voilà, pour moi, ce n'était pas. Pour ma cousine qui est végétarienne, manger 1 kg de courge par jour en hiver, c'est la base. Donc, on est paumé dans le manger varié. Si manger varié pour un foyer français, c'est manger des tomates, de la sauce tomate de la pizza, et si pour un autre foyer français, exemple de ma cousine, manger varié, le minimum pour manger varié, c'est de manger 1 kg de fruits et légumes par jour, et au final, les deux personnes voient la même pub, mais l'interprétation et la mise en application est complètement différente. Donc, la vérité, c'est qu'on est censé être sur un podcast de nutrition. Donc, on peut donner plus de contexte aujourd'hui que dans une pub de 11 secondes sur France 2 à 13h27. Manger varié, écoutez bien, manger varié, c'est un message de masse pour la population. C'est peut-être utile, mais c'est loin d'être parfait. Pire, ça peut foutre le bordel dans pas mal de cerveaux si vous prenez ça trop au pied de la lettre. Par exemple, pendant mes 3 années à Bucarest, j'ai quasiment mangé tous les jours le même repas. Tous les jours, les mêmes repas pendant 3 années. Presque identiques, sans jamais varier. C'est-à-dire que moi, Maël Brosseau, rééquilibrage alimentaire, quand j'entends la pub sur France Télévisions manger varié, je ne sais plus exactement ce que c'est, je dis non, moi, nutrition, je connais, rééquilibrage alimentaire, Maël Brosseau, pendant 3 ans, je bouffe exactement la même chose à chaque repas, tous les jours. Alors, qui a raison ? France Télévisions, manger varié, ou est-ce que j'ai raison ? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un en mauvaise santé ? En 3 ans, manger toujours la même chose, est-ce que ne pas varier mes repas était malsain ? Et si oui, si on se dit, attends, tu mangeais toujours la même chose pendant 3 ans, quasiment à peu de choses près, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu devais être en mauvaise santé. Si c'est le cas, et si manger non varié, faites-vous quelqu'un en mauvaise santé, comment ça se fait que mes bilans sanguins, mon niveau d'énergie et tous mes indicateurs de santé quand j'étais à Bucarest étaient absolument, absolument parfaits. Dans le top 2% de la population pour mon âge. Comment c'est possible? Alors qu'aujourd'hui, mes bilans sanguins sont moins bons que quand j'étais à Bucarest, alors que je mange plus varié qu'à l'époque. Aujourd'hui, mon alimentation est plus variée, il y a plus de variations dans mes repas au jour le jour maintenant que quand j'étais à Bucarest pendant 3 ans. Et pourtant, mes bilans sanguins et mes indicateurs de santé sont dégradés actuellement par rapport à Bucarest. Est-ce que ça veut dire que manger varié, c'est une énorme imposture et qu'il faut faire exactement l'inverse? Haha, pas sûr. Bon, la réponse, elle est simple. Le message de masse, le message de santé publique, c'est manger varié, s'il vous plaît. S'il vous plaît, manger varié. Pour faire passer l'idée sous-jacente, c'est-à-dire pas trop de curly et pas trop de cookies. Essayez quand même aussi de manger des fruits et du poisson doucement sur les glaces et n'hésitez pas à varier avec des yaourts grecs, limitez le coca et buvez un peu d'eau. En gros, manger varié, c'est 2 mots pour dire à des millions de personnes « Allez-y mollo sur la malbouffe et mangez un peu de légumes, les gars. » Voilà. Ce que ça veut dire quand vous voyez la pub de France Télévisions « Manger varié », ça veut dire « Hé, 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 s'il vous plaît, allez-y doucement sur la malbouffe. Les curly, les chipsters, les Monster Munch, ah, pas top, les glaces. Ok, mais essayez de manger un peu de légumes et puis du poisson. » Voilà. C'est ça que ça veut dire « Manger varié ». Rien de plus. La vérité sur le « Manger varié », c'est la suivante. Pour quelqu'un qui a une alimentation qui se repose majoritairement sur des aliments ultra transformés, le fait de varier l'aidera à couvrir un peu plus le spectre des nutriments qui pourraient lui manquer. Pour quelqu'un qui a déjà conscience de ces enjeux et pour qui l'alimentation se repose majoritairement sur des aliments bruts, le message à passer est le suivant. On s'en fout que tu varies ou pas. Le seul truc qui compte, c'est que tu couvres l'intégralité de tes besoins nutritionnels tout en mangeant ce qui te plaît vraiment afin de maintenir un bon équilibre alimentaire à moyen et long terme. Alors, pas sûr que France Télévisions me laisse autant de temps publicitaire, mais c'est le jeu. Pourquoi à Bucarest, je bouffais exactement la même chose constamment en ne rentrant pas du tout dans les cases de manger varié, en ayant malgré tout des indicateurs de santé dans le top 0,1% de la population si on regarde le spectre complet? Parce que je couvrais très précisément et absolument constamment mes besoins nutritionnels. Tous mes besoins nutritionnels étaient couverts parfaitement, quotidiennement. Donc, si vous couvrez vos besoins, vous pouvez essentiellement bouffer constamment la même chose et être dans une santé optimale. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est faisable? Eh bien, ça dépend de vous et de vos préférences. Mais ça dégage l'idée selon laquelle vous devez absolument éviter le poulet ce midi parce que vous en avez mangé hier soir. Ça dégage l'idée de « Oh non, pas encore des betteraves ce soir, on en a mangé 2 fois cette semaine, il faut absolument varier. » Ben non. Maël, il a mangé le même déjeuner au gramme près pendant 980 jours de suite. Bon, c'est des conneries, mais disons que sur les 980 déjeuners, il y en a sûrement eu 860, 870 qui se ressemblaient de très, très proches. Donc 90%. En gros, Voilà à quoi ça ressemblait mes journées à Bucarest pendant les 3 années que j'y ai passé. 4 ou 5 œufs le matin avec 20 g d'avoine, 10 g de miel, de la cannelle, une banane, du chocolat noir. Passer tout ça au micro-ondes et puis par-dessus 200 g de skyr et des fruits rouges. Voilà. Donc ça, c'était mon petit déjeuner. Tous les jours, pendant 3 ans, j'ai mangé exactement ce petit déjeuner. Et on peut même le repousser jusqu'à 2013 ou 2014, ce petit déj. Avec vraiment des variations minimes. Mais l'histoire des 4 ou 5 œufs tous les matins depuis 2013, c'est absolument réel et c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Donc, voilà. Est-ce que j'ai varié ? Est-ce que des fois j'ai mangé des Coco Pops ? Non, pas vraiment. Est-ce que des fois j'ai changé mon petit-déj, j'ai arrêté les œufs ? Non. Tous les jours, depuis 11 ans quasiment, j'ai mangé ce petit déjeuner. Et plus précisément à Bucarest, je ne l'ai jamais changé. Ça a toujours été cette composition-là. À midi, 300 g de bœuf avec 60 g de riz et des légumes. Tout ça, je le faisais cuire dans mon truc Tefal, je ne sais plus comment ça s'appelle, autocook ou je ne sais pas quoi, machin électrique automatique. Tout ça, je faisais cuire et basta. Tous les midis, la même chose avec des myrtilles en dessert. Voilà. Tous les matins, même petit-déj. Tous les midis, 300 g de bœuf, 60 g de riz et des légumes. Ok, les légumes variaient. Waouh. En fonction de la saison, je mettais ou des brocolis, ou des haricots verts, ou des poivrons, ou des tomates, ou d'autres trucs dans mon plat mélangé avec le riz et le bœuf. Mais sinon, c'était toujours les mêmes quantités, toujours les mêmes portions, toujours la même quantité de bœuf et de riz. Les légumes, c'est pareil, c'est juste que ça variait un peu. Et puis des myrtilles en dessert. 50 g de protéines en poudre, du collagène et un ou deux fruits de saison en collation. Là, c'est pareil. Des fois, je mangeais des abricots, des fois, je mangeais des cerises, des fois, je mangeais des fraises, des fois, je mangeais des poires, des pommes, des clémentines. Ok, d'accord, ça variait un peu. Et puis, le soir, de la soupe ou de la purée de légumes avec du poulet ou du maquereau. Voilà, c'était génial. 2 ou 3 soirs par semaine, je mangeais au resto. Donc, ok, je varie. Il y avait des pizzas à droite, à gauche, des lasagnes, des pâtes carbo. Ouais, mais ça correspondait vachement bien à ma vie. Donc, pendant 3 ans, est-ce qu'on peut considérer que c'est une alimentation variée au sens variation récurrente du pattern de repas, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est une alimentation, et pour cette première définition, je ne pense pas, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est une alimentation variée parce que sur le spectre de 24 heures, il y a une variété d'aliments suffisante qui permet de couvrir les besoins nutritionnels. Et moi, je pense que oui. Et je pense que le message à retenir de manger varié, l'intérêt réel de manger varié, c'est avoir suffisamment de variété alimentaire pour permettre de couvrir l'intégralité du spectre de ses besoins nutritionnels tous les jours. Et si ça implique, pour une raison X ou Y, par exemple comme la mienne, de « j'aime bien ce que je mange, ça me fait suer de changer constamment mes recettes », si ça implique de manger tous les jours la même chose, on peut quand même faire rentrer ça dans le cadre de alimentation variée parce que des œufs, du maquereau, du bœuf, du riz, de l'avoine, du miel, des légumes, beaucoup de fruits, c'est une alimentation variée et c'est ce que je faisais tous les jours. Donc quand j'étais en Thaïlande le mois dernier, j'ai suivi le même principe. Dans les 48 premières heures, j'ai établi une routine alimentaire pour me libérer. C'est-à-dire que matin, protéines en boisson plus fruits et noix de cajou. Midi, riz, poulet, légumes, omelette au resto d'en bas. Et en collation, protéines en boisson, et fruits. Et puis le soir, bœuf et légumes au resto d'à côté. Voilà. Et dans les 48 heures. Mais attends, tu voyages, t'es à l'autre bout du monde, t'es en Thaïlande. Bon, déjà, c'est pas vraiment du tourisme que je vais faire. Donc, j'ai pas trop cette appétence à dire « Oh, il faut que j'aille tester les nouveaux restos, il faut que j'aille tester les spécialités locales. » Non. Là, je bosse quand je suis ici, ça change absolument rien. Donc, je remets une routine immédiatement. Et le truc le plus agréable pour moi psychologiquement, c'est de dire « Ok, je sais ce que je vais manger demain, après-demain, après-après-demain. Je peux me concentrer sur les trucs importants, à savoir bosser et m'occuper de ma famille, etc. » Donc, pourquoi je fais ça ? Parce que je n'ai pas le temps de penser à la bouffe. Je n'ai pas le temps de me demander « Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» J'ai horreur de cette question. « Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» Je n'ai pas envie d'y penser. Si je trouve un repas que j'adore, si ce repas couvre parfaitement mes besoins, alors c'est bingo, je le mange tout le temps. Comme le boulot, si vous trouvez un truc qui vous plaît, c'est pas la peine de changer tous les 3 mois. comme votre partenaire. Si vous trouvez quelqu'un qui vous plaît, c'est pas la peine de changer tous les ans. Comme votre ville. Si vous trouvez un endroit qui vous plaît, pas la peine de déménager constamment. Comme votre coupe de cheveux, votre style de maquillage, la couleur de votre salle de bain, la façon dont vous brossez les dents, l'histoire de manger varié. Juste pour manger varié, ça fout le bordel. Manger varié parce que vous en avez vraiment envie, ok. Si vous en avez marre de manger du riz à midi, ben faites des pâtes un jour sur deux, des pommes de terre, des patates douces, du quinoa, de la semoule. Ok, varié, super. Si vous voulez manger autre chose que du bœuf à midi, mangez de l'agneau, mangez du canard, mangez du mouton, mangez du poulet, mangez de la dinde. Ok, varié, allez-y, mangez du poisson, mangez autre chose. C'est d'accord. Mais mangez varié parce que vous pensez qu'il faut le faire. Quand bien même vous couvrez vos besoins nutritionnels, c'est pas ok. Ça finit par produire l'effet inverse. Moi, je vais loin en répétant quotidiennement les mêmes repas, mais c'est parce que cette routine me rend libre par son absence de décision que je considère comme étant secondaire. Que je considère comme étant secondaire. Je considère que varier constamment les goûts, c'est secondaire pour moi et j'y trouve pas un intérêt majeur. Ça me laisse plus d'énergie, de temps et de capacité pour des trucs prioritaires dans ma vie. Donc sans aller aussi loin que moi, c'est une excellente idée d'avoir une base de repas prédictible pour votre rééquilibrage alimentaire. Ça augmente significativement vos chances de perdre du poids sans rechuter. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En l'occurrence, à Bangkok, tout le temps le même petit-déj, tout le temps la même collation, presque tout le temps le même petit-déjeuner. Et pour le dîner, on tournait sur 3-4 restos que j'aime bien, même si souvent ça finissait dans le même resto où je mangeais du bœuf et des légumes. Donc, appliqué à ma vie de famille, la structure de prédictabilité pour les repas où je suis seul, donc facile à préparer, rapide à manger et qui couvre parfaitement mes besoins. Puis, de la variété au dîner quand tout le monde est à table en même temps. Donc, grosso modo, pour donner un peu plus de contexte, le matin, je me lève avant, donc je mange tout seul, donc je mange toujours la même chose parce que ça me plaît, c'est facile, c'est simple, ça couvre mes besoins. Le midi, la plupart du temps, je mangeais tout seul aussi ou avec, enfin en dehors de ma famille. Donc pareil, je mange toujours la même chose, je vais au resto, je suis avec d'autres gens souvent, mais je vais au resto à Bangkok, je mange toujours la même chose tous les midis parce que c'est simple, c'est pratique, c'est efficace, ça couvre mes besoins. Collation après l'entraînement, pareil. Et le soir, en dîner, je mange avec ma famille. Donc, on varie parce que s'il n'y avait que moi et si j'étais tout seul, oui, je mangerais encore la même chose parce que c'est facile, c'est simple, c'est rapide, ça couvre mes besoins, j'aime bien. Mais il se trouve qu'il y a des notions de compromis, et même au-delà de la nourriture, elle n'a pas juste un facteur, il n'y a pas juste un facteur nutritionnel dans l'alimentation, il y a aussi un facteur social, de groupement, de discussion, de temps passé à table, etc. Et il se trouve que le soir, c'est le moment le plus adapté, le plus approprié à ça pour moi dans mon style de vie avec ma famille. Donc, on va au resto, on prend le temps de discuter, de changer. Même si, bon, la plupart du temps, une fois que j'ai trouvé 3-4 restos, on va dans les mêmes. Et une fois que j'ai trouvé un plat qui me plaît dans le resto, je prends toujours le même parce que c'est plus facile. Bref. Donc, quand tout le monde est à table en même temps, je garde une ligne de conduite structurelle qui assure que je couvre bien mes besoins et que je respecte mes goûts, basta. La version light du truc, pour vous, c'est d'analyser votre dernier mois. De vous rendre compte qu'en fait, parce que, bon, on va sortir du script, mais dit comme ça, expliqué de la sorte, ça peut paraître extrêmement rigide, extrêmement redondant, extrêmement routinier, extrêmement ennuyant, extrêmement chiant, extrêmement peu varié en termes de... en termes gustatifs, et mais c'est une prison, ça n'a aucun sens. En fait, ils mangent tout le temps la même chose, ils pourraient manger différemment, varier les goûts, etc. Mais la vérité, c'est que quand on hiérarchise correctement ses priorités, donc qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire dans sa vie, on finit par faire des adaptations d'automatisme. C'est-à-dire que le fait d'être aussi prédictible dans le cadre et la structure de mes repas, puisqu'ils se répètent jour après jour, ça me permet d'être beaucoup plus libre et de pouvoir prendre beaucoup plus de liberté sur d'autres facettes de ma vie. Puisque je n'ai jamais besoin de me poser la question « qu'est-ce que je vais manger ce matin ?» et bien, toute l'énergie allouée à « qu'est-ce que je vais manger ce matin ?» il peut être attribué à autre chose, à mon travail ou à quoi que ce soit d'autre. puisque j'ai pas besoin de me poser la question où est-ce que je vais manger ce midi, qu'est-ce que je vais manger ce midi, il va falloir que je calcule combien de calories il y a, il va falloir que je regarde combien de protéines ça fait, il va falloir que je choisisse un repas, un plat en fonction de la pompe. Non, puisque tout ça, ça dégage, tiens, j'arrive le midi, je vais prendre le poulet avec le riz et les légumes et puis une omelette. Super, je fais ça pendant les 31 prochains jours à Bangkok, plus besoin d'y penser. Et ça, c'est génial. Enfin, c'est génial dans le contexte où on comprend que les repas me plaisent, sont adaptés à mes goûts, les repas couvrent mes besoins nutritionnels et en résulte une quantité d'énergie appropriée. Si j'ai envie de varier ou si je ressens le besoin de varier, j'ai toute la zone tampon du dîner pour le faire. C'est-à-dire que je ne ressens pas le besoin de varier à midi parce que de toute façon, je sais que le dîner arrive et que ce soir, si j'ai vraiment envie de manger une pizza, ben, je mangerai une pizza ce soir et il n'y a aucun problème avec ça, etc. Donc, pour vous, vous pouvez vous rendre compte que vous mangez en fait que 8 ou 9 repas différents. Parce que là, moi, ça fait quoi? Ça fait petit déjeuner différent, enfin un petit déjeuner, un déjeuner, une collation et 3 ou 4 dîners différents. Donc, ça fait 6 à 7 repas différents au total dans mes journées. Ok, ça se répète, c'est souvent les mêmes, presque toujours les mêmes, mais grosso modo, ça fait un panel de 7 repas différents sur lesquels je pioche. Il se trouve qu'en l'occurrence, je mange le petit déjeuner toujours à la même heure et que j'inverse pas, etc. Et donc, en gros, il y a 7 repas sur le spectre. Quand vous analysez votre dernier mois, et si mon pattern de repas peut sembler strict, quand vous analysez votre dernier mois, vous allez vous rendre compte que vous mangez 8 9 repas différents. C'est-à-dire que vous mangez juste 2 repas différents des miens. Du poulet avec des pâtes, ok, vous avez mangé ça le mois dernier. Du steak avec des pommes de terre, ouais, ça fait 2 repas. Du riz avec des saucisses, ouais, ça fait 3 repas. Peut-être que vous avez mangé du poisson avec de la purée de légumes, ok, 4 repas, etc. Des fois, les légumes varient un peu dans vos repas. Ok, des fois, c'est de la semoule plutôt que du riz, mais grosso modo, ça se répète vachement. Et en pratique, vous avez juste à apporter des changements mineurs de portions à ces 8-9 repas pour que votre apparence physique change drastiquement. En fait, quand vous regardez votre mois précédent, quand vous regardez le mois précédent entier en termes d'alimentation, vous avez grosso modo toujours la même structure de repas. Il y a de la viande qui est très souvent la même, du bœuf, du poulet, de la dinde, okay, c'est souvent du porc, okay, c'est souvent le même type de viande. C'est souvent les mêmes portions, vous mangez des côtes de porc, des fois c'est des saucisses, mais grosso modo ça tourne autour de la même chose, vous mangez du steak haché, des fois c'est de la bavette, mais grosso modo c'est toujours la même chose, des escalopes de poulet, des fois c'est de la cuisse de dinde, ok. Donc finalement vous variez pas tant que ça. Ensuite vous mangez du riz, des pâtes, de la semoule, des pommes de terre, ok, souvent vous faites les mêmes combinaisons, à savoir c'est du riz avec du poisson, c'est des pommes de terre avec du bœuf. À nouveau, est-ce que c'est vraiment une grande... Est-ce que c'est varier énormément le fait de manger des pommes de terre bouillies et puis le lendemain de manger des pommes de terre sautées? Je ne sais pas. Et ok, les légumes bougent un peu. Mais quand vous regardez de façon objective tous les repas que vous avez faits le mois dernier, on peut encercler des types de repas qui se ressemblent de très très proches avec la même source de féculents, la même source de protéines et grosso modo les mêmes légumes. Donc on peut dire qu'il y a 8 cercles, 8 repas, 8-9 repas sur lesquels vous tournez, dans lesquels vous variez un peu, mais en fait, c'est très souvent les mêmes 8 ou 9 repas que vous mangez au cours de la semaine et au cours de votre vie. Donc, si ces 8 ou 9 repas que vous faites tourner de temps en temps, vous les mangez constamment, on peut aussi considérer que ce sont ces 8 ou 9 repas qui sont responsables de votre apparence physique actuelle. Si ce sont les repas des 10 dernières années qui vous ont mené à votre physique actuelle et 90% de ces repas étaient les 8-9 même à peu de choses près, ce sont effectivement ces 8 ou 9 repas qui vous ont fait grossir. Donc, et c'est là la note d'espoir incroyable de ce podcast, pour maigrir, il faut juste recalibrer ces 8 ou 9 repas. Et oui, c'est aussi l'avantage énorme d'avoir une structure de repas prédictible et prévisible, c'est qu'à aucun moment, j'ai besoin à nouveau de savoir, de recompter le nombre de protéines que je mange, de recompter la quantité de calories. Non, puisque je mange toujours la même chose, je sais exactement quel résultat ça va produire physiquement. Donc, la version un peu allégée de ce truc-là, c'est si vous mangez toujours la même structure de 8 ou 9 repas depuis des années. Il suffit de modifier un petit peu les portions dans ces 8 ou 9 repas pour produire un résultat physique à l'opposé de ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années. Dans l'étude de, on est en France, ok, The National Control Weight Registry, plus de 10 000 personnes qui ont perdu 30 kilos sans les reprendre pendant au moins 5 ans et demi. Donc, cette étude-là, elle prend 10 000 personnes. Sur 10 000 personnes, ils ont perdu, donc pardon, ces 10 000 personnes ont perdu 30 kilos sans les reprendre pendant au moins 5 ans et demi en moyenne. Donc, il y avait plus de 60% d'entre eux qui avaient une forme de prédictabilité dans leur alimentation, soit avec un plan alimentaire, soit en préparant des repas à l'avance, soit en se faisant livrer des repas calibrés. Parce que ça donne une vision très claire et structurée de son alimentation et surtout, ça influence vos hormones. Donc, je répète quand même, sur 10 000 personnes qui ont perdu 30 kilos sans les reprendre pendant 5 ans et demi, il y en a au moins 6 000 d'entre eux qui avaient, ce que je viens de vous dire, une forme de prédictabilité dans les repas. Soit ils mangent toujours la même chose, soit ils se font livrer des repas qui sont très souvent les mêmes ou alors qui sont calibrés, soit ils ont un plan alimentaire qu'ils suivent précisément. Ça en dit long. Et pourquoi je parle des hormones ? Je dis que ça donne une vision claire et structurée de l'alimentation et surtout ça influence vos hormones. Parce que si vos repas sont prédictibles, vous n'avez pas un surplus de dopamine anticipatoire en ce qui concerne la palatabilité du repas de ce midi. Votre cerveau ne lance pas un grand scénario salivant dans lequel il y a des chips et des brownies à midi. Non, il est 11h. Vous savez déjà que dans une heure, c'est 200 g de pommes de terre avec du saumon et une salade de crudité. Vous aimez ça ? C'est super bon, ça couvre vos besoins et c'est tout. Les études sur l'accoutumance alimentaire montrent aussi que plus il y a de prédictibilité et de récurrence dans la composition de vos repas, moins les signaux d'appétit seront élevés et moins les écarts du cadre sont fréquents. Autrement dit, plus votre plan alimentaire est précis et plus la vision de ce que vous allez manger ce midi, ce soir, demain matin, demain midi, demain soir, plus tout ça est clair et précis dans votre esprit et surtout ancré dans la réalité, moins vous serez réceptif aux signaux d'appétit, en tout cas moins ils seront élevés et moins les écarts du cadre seront fréquents. C'est-à-dire vous serez moins sujet au craquage, au grignotage alimentaire quand il y a une forme de prédictibilité dans la composition de vos repas. Autrement dit, manger, et là on retombe sur nos pattes, manger hyper varié augmente le spectre gustatif auquel vous vous exposez. Donc, la volonté de retrouver une grande variété de saveurs régulièrement. Et c'est là-dessus que jouent les industriels de l'agroalimentaire. Quand vous bouffez un Oreo, il y a du croquant, du fondant, du sucré, du lacté, du chocolaté. Ça allume tous les voyants de vos papilles et vous en voulez toujours plus. Vous en voulez d'autres parce que ça couvre, yeah, c'est croquant, c'est fondant, c'est sucré, c'est lacté, c'est chocolaté. Ça allume tout et on dit, oh putain, il m'en faut d'autres. Parce que manger hyper varié augmente le spectre gustatif auquel vous vous exposez. Et une variation constante des saveurs, ça augmente votre ligne de base de dopamine et ça crée des pics immenses qui vont induire des chutes violentes. Et dans la période où votre dopamine remonte à sa ligne de base, vous serez hyper tenté de manger de la malbouffe pour faire remonter ça plus vite, sauf que ça crée un cercle vicieux. En gros, vous allez voir, là, votre dopamine, on va essayer de schématiser ça le plus possible et vulgariser le truc. Vous voyez votre dopamine comme étant une ligne constante, on va dire, on va donner un nombre arbitraire. Votre dopamine, elle est au niveau 50. Constamment, 50. Dopamine, hormone du plaisir, si on vulgarise, je sais, c'est dur à dire, mais on parle là-dessus. Hormone du plaisir, 50. Ok. Vous mangez un repas prédictible, un repas habituel, vos pommes de terre avec votre saumon, vos légumes, c'était prévu, c'était anticipé, donc il n'y a pas de pic de dopamine énorme. Waouh, content, je vais manger, ça va être super, j'ai faim. Ok, la dopamine monte à 70. Boum, ça redescend à 40 et ça remonte tranquillou à 50, votre niveau de base. Là, ce bruitage, c'est censé être la dopamine qui reste à 50. Bon, bref. Maintenant, votre dopamine, vous avez faim, il est 11h, vous êtes en train de penser. Vous n'avez pas préparé votre repas, vous n'avez pas de planification de repas. Pensez à, oh, j'ai tellement faim, il est 11h, qu'est-ce que je vais manger ce midi ? Oh, il y a un McDo pas loin du bureau. Oh là là, Oh là là, il y a un McDo pas loin du bureau, j'ai super faim, en plus j'ai pas de repas préparé à l'avance. Donc là, juste dès 11h, dans l'anticipation du Big Mac et du McFlurry, votre dopamine monte directement à 120. 11h30, vous avez encore plus faim. Là, vous pensez au fait que vous allez pouvoir ajouter des nuggets et un petit wrap et des frites et du coca avec votre menu McDo. Tellement vous avez faim, vous pouvez manger tout ça sans problème. Boum, la dopamine monte à 150, 200 dans l'anticipation du plaisir à venir. Vous mangez le McDo, ça y est, la dopamine redescend tranquillou parce que vous avez tellement anticipé le truc que la dopamine a explosé. Et au moment où vous redescendez largement en dessous de 50, 40, 30, vous descendez à 10 parce que vous avez eu tellement de plaisir, tellement de bonheur dans l'anticipation du McDo que vous redescendez extrêmement bas. Et maintenant, le chemin pour remonter de 10 à 50, il est beaucoup plus long que le chemin pour remonter de 40 à 50. Donc pour retourner à votre ligne de base de dopamine, ça va être chiant, ça va être déprimant. Vous allez, en fait, pour remonter de 10 à 50, votre corps va essayer de récupérer de la dopamine anticipatoire en disant « Ok, là, c'est pas bien, là, c'est pas ouf. Je suis pas très heureux d'être au niveau 10 de dopamine. Il faut que je retourne au niveau de 50. » Et même, pire, je suis monté au niveau 200 avec le McDo. Et c'était tellement bien. Il faut absolument que je retourne là. Et donc là, quel est le meilleur moyen de retourner à un pic de dopamine? C'est de recommencer à manger extrêmement varié ou de manger de la malbouffe qui va allumer à nouveau tous les signaux de dopamine et faire monter très haut en dopamine. Donc, vous rentrez dans un cercle vicieux et lent. Alors que si vos repas sont prédictibles, si vous savez ce que vous allez manger à 11h, l'idée même d'aller au McDo, elle ne rentre même pas dans votre tête. Donc, la variation de dopamine, elle n'existe pas. Donc, vous restez relativement stable en termes de faim, de frustration, d'envie. Tout ça reste calibré et dans une fourchette qui va, admettons, de 40 à 70 en termes de niveau de dopamine lié à la nourriture. Et c'est pour ça que sur les 10 000 personnes qui ont perdu 30 kilos sans la reprendre pendant 5 ans et demi, il y en a un peu plus de 6 000 qui ont dit « Ok, moi, le meilleur moyen pour tenir mon déficit calorique à moyen et long terme, c'est d'avoir une grande prédictibilité dans mes repas. » Et on peut comprendre comment tout ça se lie à la dopamine et à l'augmentation du spectre gustatif et à l'augmentation de l'amplitude d'appétit, etc. Donc, en arrivant à Manille, je partais du principe que j'allais faire exactement comme pour Bangkok, à savoir choisir un resto dans le coin pour le midi et varier le soir. Mais non, impossible. Je savais que ce serait compliqué puisqu'on venait de Thaïlande et qu'objectivement, la bouffe thaïlandaise est très bonne, alors que tous les retours que j'ai eus sur la nourriture à Manille étaient au minimum très critiques. Donc, on a essayé deux jours de descendre, de chercher, de demander aux gens d'essayer des plats, d'aller essayer des restos. Mais non, le troisième jour, j'ai abandonné l'idée. C'était le lundi midi et je cherchais le truc le moins exotique possible avec la plus grande simplicité pour limiter le risque d'une nouvelle déception. Donc, on y va. Resto propre, enseigne neuve, cadre ultra simple puisqu'ils font des sandwichs. Je commande deux trucs, un sandwich au poulet et un sandwich au bœuf. Voilà ce que je commande. Bonjour. Imaginez, vous êtes en France, ça n'a aucun sens pour vous. Pour rentrer dans une boulangerie, n'importe quelle boulangerie, un sandwich au poulet, bon, c'est un sandwich avec du pain, des crudités, de la mayo, du poulet. C'est pas incroyable, mais c'est bon, ça se mange. Sandwich au bœuf, en France, ça pourrait être l'équivalent dans une boulangerie d'un panier avec du bœuf et du fromage, et peut-être des tomates séchées, un truc comme ça. C'est pas incroyable, mais c'est bon. Ça se mange. Ça arrive. Elle nous amène les deux sandwichs. Et en fait, c'est simplement deux tranches de pain de mie complet toasté. Ok, c'est neutre. Des crudités, un peu de coleslaw. Et je ne sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Coleslaw. Le chou avec les carottes et une espèce de sauce mayonnaise, je ne sais pas quoi. Et la viande. Donc là, je me dis, pour vous, vous dites, oh, bizarre. Moi, je me dis, parfait. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Peu d'ingrédients, peu de sophistication pour maximiser le potentiel gustatif ennuyeux, mais mangeable. On était rendu là, après 3 jours à Manille, on voulait juste un truc mangeable. Juste neutre, pas bon, pas exceptionnel, juste mangeable. Alors, le process, c'est de faire griller du pain de mie. Ok, vous savez faire griller du pain de mie. D'ajouter un peu de carottes avec du chou et je ne sais pas ce qu'ils mettent comme sauce dedans. Bon, ok, c'est pas compliqué. De mettre des morceaux de poulet par-dessus. Ok. De mettre un peu de sauce. OK, de refermer le pain de mie. Et voilà, vous avez le sandwich, pain de mie, poulet, carottes, choux, crudités, enfin, ouais, je ne sais pas trop ce que c'est, de la sauce. Pour fermer le sandwich, vous mettez le papier alu, vous livrez ça à la table. C'était immangeable. C'était immangeable. Et j'abuse absolument pas. C'était immangeable et je ne suis pas un type difficile. Pour une raison inexplicable, il y avait une quantité de sauce infinie. Le pain était comme mouillé, le poulet était bizarrement cuit et franchement, c'était incompréhensible de louper un truc pareil. Donc, à ce moment-là, il a fallu changer de stratégie parce que c'était plus possible. Ça fait 3 jours qu'on est là, depuis 72 heures. 100% des repas qu'on essaye de manger au restaurant sont dégueulasses, sont immangeables. Donc, on se dit, OK, faut changer de stratégie. Je fais une liste de tous les restos healthy sur la livraison d'application de Mani, sur Foodpanda. Et par un grand miracle, j'en ai trouvé un qui fait un plat avec du riz, des légumes et du poulet sans aucune innovation. Pas de sauce étrange, pas de cuisson novatrice. Et c'est magnifique de manger un truc aussi simple et efficace après 4 jours d'incertitude. À Bangkok, c'était déjeuner, dîner au resto avec un plaisir intense à l'idée d'aller manger le même plat tous les midis et de varier le soir. Ici, j'ai carrément éliminé l'idée du resto le soir. Bon, oui. En gros, maintenant, ça ressemble à ça. Protéines en poudre avec des fruits le matin, livraison du repas le midi avec du riz, du poulet, des légumes, et je fais la recette de mon petit-déj en guise de dîner, à savoir 5 œufs, 30 grammes d'avoine, 10 grammes de miel, du cacao 100%, de la cannelle, une banane et du skyr. Tout ça en bowl cake. Voilà. Et le plaisir, il vient du contraste et de la prédictibilité. Après 3 jours à avoir essayé des restos qui se surpassaient en termes de déception, là, c'est agréable de savoir qu'on s'épargne les surprises et on jouera le jeu de varier les repas quand on retourne à Bangkok dans quelques semaines. Donc, le premier truc que j'ai fait en arrivant ici, après la déception du premier repas, c'est de commander des protéines en poudre. Je savais que ce serait extrêmement difficile de manger suffisamment de viande dans un contexte comme celui-là, et je sais aussi que c'est primordial de manger suffisamment de protéines pour maintenir une bonne forme physique. Et pendant que je suis là, c'est d'autant plus important parce que, en général, c'est plus compliqué d'avoir des grosses portions de protéines quand on mange au restaurant tout le temps. Bref. Donc, la solution la plus simple et cohérente, c'est protéines en poudre. Et c'est exactement ce que vous devriez faire si, malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à couvrir vos besoins en protéines avec vos repas. Pour rappel, vous devriez consommer au minimum du minimum 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps. Et plus vous en mangez, mieux c'est pour la satiété, pour le maintien de votre masse musculaire, pour l'oxydation du gras. Si vous faites 70 kg, c'est 91 g de protéines par jour. Grosso modo, ça fait 3 œufs plus 100 g de skyr plus 200 g de poulet plus 100 g de thon. Sur une journée, ça ferait donc un petit déj avec des pancakes, 3 œufs plus du skyr, un déjeuner avec vos 200 g de poulet et des légumes et un dîner avec 100 g de thon ou n'importe quoi d'autre. Sur le papier, ça fait pas énorme, dit comme ça, mais 99% des femmes en mangent trop peu. En fin d'année dernière, je suis allé manger chez ma grand-mère très régulièrement et j'étais obligé de la forcer à se préparer plus de viande tellement elle se contente d'une petite escalope fine comme si c'était suffisant. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Petit déjeuner, à manger, je sais pas, boire du thé avec des galettes de riz ou un truc comme ça et peut-être un petit yaourt, une compote. Au déjeuner, des légumes, un peu de riz, du beurre et une escalope de poulet fine, peut-être 70 grammes, 80 grammes d'escalope de poulet et puis le soir, de la soupe. Soupe avec des croutons ou je sais pas quoi. Donc, dans la journée, on a grosso modo 20 grammes de protéines, alors qu'il lui en faudrait 3 fois plus, 4 fois plus. Donc, à chaque fois que je mangeais chez elle, et j'ai mangé chez elle régulièrement pendant le mois de novembre et de décembre 2023, j'étais obligé de lui faire cuire 2 ou 3 fois plus de viande à midi. J'étais obligé de lui faire prendre des protéines en poudre au goûter ou le soir pour l'aider à aller chercher ses 70-80 grammes de protéines de la journée. D'autant plus, passé la ménopause, la sarcopénie, elle est très violente et la surconsommation de protéines est primordiale. Une consommation adaptée de protéines à cet âge-là, c'est primordial pour éviter les chutes liées à la perte de masse musculaire Parce que, je vous rappelle, petite donnée par ici, que je vais massacrer, je pense. Il me semble que, si je me souviens du podcast de Atia, c'est au-dessus de 78 ans, une chute qui entraîne une fracture. Non, si, si, n'importe quelle chute, quelle qu'elle soit, qui entraîne une fracture, c'est une chance sur trois d'entraîner la mort avant la fin de l'année. Il y a votre grand-mère se brise le col du fémur en janvier 2023, il y a une chance sur 3 ou alors quelque chose comme 40% de chance pour qu'elle soit décédée avant la fin de l'année à cause de la fracture. D'où l'importance capitale de manger suffisamment de protéines pour la densité osseuse, de se supplémenter en vitamine D3 et en vitamine K2, MK7, surtout à cet âge-là, mais toute sa vie en vérité, et de maintenir un bon niveau d'activité physique. Mais d'autant plus, l'apport en protéines à cet âge-là est absolument capital pour maintenir un bon niveau de masse musculaire, limiter la sarcopénie et donc éviter ce risque de chute lié à souvent des déséquilibres musculaires ou juste à une perte globale de masse musculaire. Bref, si vous faites 70 kg et que vous êtes déjà loin de manger 300 g de viande par jour, plus 3 œufs, plus des produits laitiers, ça craint. Et si vous êtes vraiment très loin, la première chose, c'est de doubler toutes vos portions de protéines, puis d'ajouter 30 voire 40 g de protéines en poudre en collation quelque part. Juste avec ça, sans se préoccuper de rien d'autre lié au rééquilibrage alimentaire, vous allez perdre du poids par l'augmentation significative de l'indice de satiété de vos repas. Écoutez, à chaque fois que j'aborde la nutrition de quiconque, y compris la mienne, je ne construis même pas sur les calories. La priorité absolue, c'est est-ce que les besoins en protéines sont couverts ? Vraiment. Oui, les calories, c'est important, déficit calorique pour perdre du poids, ok. Mais la priorité numéro 1 pour la plupart des gens, avant de se mettre la barrière à l'entrée, de compter ses calories, regarder combien on en mange, déficit calorique, c'est est-ce que, oui ou non, tu manges suffisamment de protéines ? Et une fois que c'était fait ici à Manille, avec les protéines en poudre, le matin, protéines en poudre, 400 g de viande à midi et 5 œufs le soir, je suis passé à la deuxième étape, celle des micronutriments. Heureusement, ici, les fruits sont très bien, donc j'en mange constamment. Et en plus, j'ai un peu de légumes à midi. Ensuite, il y aurait la préoccupation des calories. Mais puisque je n'ai aucune raison d'en surconsommer ici, dû au fait que tous les repas sont prédictibles, ben, c'est hors débat. Dans votre cas, ça implique probablement une régulation et des compromis. Donc, calcul de vos besoins en protéines. 1,3 g par kilo de poids du corps. Bim, vous créez une structure fiable de ce à quoi ça correspond en termes de portions. Et donc, ça n'a pas besoin d'être aussi prédictible que moi. Ça peut être juste, ok, j'ai besoin de 100 g de protéines par jour. Qu'est-ce que je fais pour ça ? Le matin, admettons, je vais prendre toujours le même petit-déj avec 3 œufs et 200 g de skyr. 3 œufs, 3 x 7, 21, 200 g de skyr, ça fait 20 g. Boum, j'ai 41 g de protéines dès le matin. Super, j'ai déjà couvert 40% de mon apport. Maintenant, tous les matins, désormais, je vais manger 3 œufs et 200 g de skyr. Avec le reste, je ne sais pas, de l'avoine, je vais me faire un pancake, je vais faire un bowl cake, je vais faire des trucs comme ça, des gaufres, en mettant de la farine avec mes œufs, j'en sais rien. Peu importe. Tous les matins, 40 g. Ok, maintenant, le midi. Je n'ai pas envie de manger toujours la même chose, mais je comprends bien qu'il me faut, grosso modo, 30 g de protéines le midi et 30 g de protéines encore le soir. Ok, donc à midi, 30 g de protéines, il faut absolument que je mange 150 g de viande tous les midis, ou 150 g de poisson, ou 100 g de viande et puis un produit laitier à la fin du repas. Ok. Tous les midis, maintenant, je vais manger 150 g de poulet, 150 g de dinde, 150 g de bœuf, 150 g de porc, 150 g de thon. Ok. Maintenant, le soir, pareil, il me faut 30 g de protéines. Qu'est-ce que je vais manger ? Je sais pas, je vais manger 250 g de mozzarella. J'adore la mozzarella, c'est super, il y a pas trop de calories, il y a des protéines. Génial. Tous les soirs, je mange 250 g de mozzarella. Ou autre chose, je mange du saumon le soir. Du saumon fumé. Je me fais un sandwich avec du pain complet et du saumon fumé et de la mozzarella. Super, génial. J'ai mes 30 g de protéines. Et si, comme ça, vous couvrez le spectre de vos besoins en protéines avec une notion de prédictibilité en disant il me faut telle portion le matin, telle portion le midi, telle portion le soir, sans jamais en sortir. Ok, je peux être flexible dans les choix, de mes apports. Je peux varier la viande, je peux varier le boisson, je peux varier les produits laitiers. Super, mais quoi qu'il arrive, il faut que je couvre cette portion. Et ça correspond à 40 grammes de protéines le matin, 30 grammes le midi, 30 grammes le soir, 150 grammes de viande à midi, 150 grammes de poisson le soir, des œufs le matin avec du skyr, bref. Et juste le fait d'avoir cette prédictibilité là-dedans, ça va structurer l'intégralité de vos journées et ça va vous permettre de rester dans le cadre beaucoup plus facilement et avec moins de sensations de frustration et de restriction que si vous étiez en train de dire « Ok, il faut que je mange exactement ça tous les midis sans jamais en sortir. » Non, vous pouvez en sortir, vous pouvez varier, mais il faut couvrir ses besoins. Ensuite, il y a le calcul de vos besoins en fruits et légumes. Donc là, c'est votre poids du corps plus un zéro. Si vous faites 70 kg, ça fait 700 grammes de fruits et légumes par jour. Bim, vous créez une structure fiable de ce à quoi ça correspond en termes de portions. Je ne vais pas vous faire tout le truc complet, mais peut-être que le matin, avec votre petit-déj, c'est une pomme. Ça fait 170 grammes. Boum, 170 grammes de fruits. Le midi, vous mangez peut-être une salade de crudités en entrée de 200 grammes. Et puis après, vous mangez des haricots verts avec le plat. Boum, ça fait 300 grammes à nouveau. On a déjà, entre le matin plus le midi, on a déjà 450, 470 grammes. Plus un autre fruit en collation, boum, 600 grammes. Plus le soir des fruits, boum, 700 grammes. Facile, simple, structure simple. Protéines plus fruits plus légumes. Protéines plus fruits plus légumes. Protéines plus fruits. Facile. Et là, on n'a pas encore parlé de calories. Mais juste avec ça, on a une partie sérieuse de vos progrès à venir. Couvrir quotidiennement et sans jamais louper de journée vos portions de protéines et de fruits et de légumes, c'est bingo. Vous faites 80% du boulot avec ça. Le seul truc qui reste sur le plan nutrition, c'est de ne pas dépasser votre niveau de déficit calorique. Mais sur le plan de la satiété et du volume alimentaire, le simple fait de manger 300-400 grammes de viande, des œufs et des produits laitiers, de manger 300 grammes de fruits et 400 grammes de légumes dans la journée, juste ça comme étant la base irréductible et non négociable de vos journées, vous avez la garantie de progresser. Mais ça paraît tellement con et facile que la plupart des gens ont l'arrogance de sauter cette étape. Genre, mais oui, ça va, je mange assez de légumes. Combien ? Combien t'en manges ? Ben, tous les repas, je mange des légumes. Ok, mais combien ? Combien t'en manges ? Ben, j'en sais rien. Et en étant précis, on se rend compte que c'est 30-40% trop peu. Mais oui, ça va, Maël, je mange assez de protéines. Combien ? Ben, plus qu'avant. Ok, mais pareil, en étant précis, on se rend compte que deux fois plus qu'avant, c'est toujours deux fois trop peu par rapport à ce que tu devrais faire. Si tu es comme ma grand-mère et que tu mangeais 60 grammes d'escalope de poulet à midi et que tu en manges deux fois plus qu'avant, tu manges maintenant 120 grammes d'escalope de poulet par jour, super, c'est toujours trois fois trop peu. Donc, tu as l'impression de faire suffisamment, tu as l'impression de faire plus qu'avant, mais c'est toujours largement insuffisant. Toutes les augmentations proportionnelles peuvent être perçues comme suffisantes alors qu'elles ne le sont peut-être pas en absolu. Passer de 30 grammes de protéines par jour à 60 grammes, c'est une augmentation de 100% en proportion, mais c'est toujours insuffisant puisqu'il fallait faire une augmentation proportionnelle de 200% pour atteindre les 90 grammes par jour, ce qui représente le minimum viable si vous faites 70 kg. Bref, si on en vient à Manille et à la ligne de conduite de l'épisode sur manger varié, la question légitime à venir c'est est-ce que ma vie est horrible dû au fait que je mange constamment la même chose ? Et est-ce que votre vie va devenir horrible si vous structurez, vos journées et vos repas comme étant « Ok, le matin, il me faut tant de protéines, tant de fruits, tant de légumes. Ok, le midi, il me faut tant de protéines, tant de fruits, tant de légumes. Ok, le soir, pareil. » Est-ce que tout va devenir horrible et calculé et insupportable et ne laisser aucune place à l'improvisation et à l'inconnu ? La réponse est non. Parce que, est-ce que ma vie est horrible ? La réponse est non, parce que, roulement de tambour, si ça l'était, je mangerais davantage varié. Eh oui, logique. La véritable question serait, même si tu couvres tes besoins et que tes indicateurs de santé sont optimaux en mangeant comme ça, même si tu apprécies tous tes repas, même si tu n'as pas envie ou besoin de varier, est-ce qu'il y a quand même des intérêts à varier ton alimentation ? Et la réponse est oui. J'aime bien manger des pizzas. J'adore les pâtes carbo. J'adore la quiche Lorraine, surtout celle de ma mère. J'aime les frites et les croissants. Est-ce que ça sert un intérêt concret sur le plan nutritionnel de manger ces aliments ultra transformés ? Non. Sauf qu'en réfléchissant à l'œuf ou la poule, c'est probablement dans ce sens que ça fonctionne. C'est parce que je mange occasionnellement en dehors de ma structure de repas habituelle et que je le fais avec une grande liberté et sans contrainte de fréquence stricte que, justement, je ne ressens pas de frustration, de restriction et de lassitude liées à mon alimentation prédictible, habituelle. Sur le plan évolutionniste, la nourriture a toujours été beaucoup plus que des calories. L'élément social, tribal, le fait de partager un repas et même la signification de partager un repas spécifiquement calorique, synonyme d'abondance énergétique. Alors, est-ce qu'on doit réfléchir à ça en mangeant des lasagnes avec ses amis? Probablement pas. Est-ce que le fait de ne pas y penser supprime la signification pour autant? Probablement pas. Tout ce que vous faites en nutrition ne devrait pas exclusivement servir un intérêt préalablement établi d'optimisation de votre santé. Je le répète, tout ce que vous faites en nutrition ne devrait pas exclusivement servir un intérêt préalablement établi d'optimisation de votre santé. C'est bien si ça le fait, c'est cool si c'est au croisement de ce que vous vouliez faire initialement, mais c'est parfaitement acceptable qu'une portion plus ou moins grande de vos repas serve des intérêts purement gustatifs ou social ou de curiosité ou culturel. Si je suis personnellement entièrement satisfait de manger 95% du temps la même chose, mon environnement social et ma vie de famille me poussent à manger 70% du temps la même chose. Alors pas sous contrainte, mais en gros, si je vivais seul constamment, je mangerais la même chose 95% du temps. Puisque j'ai une famille, je ne mange la même chose que 70% du temps et je suis parfaitement à l'aise avec l'idée de varier constamment mes repas au dîner ou varier régulièrement mes repas au dîner parce que je comprends que manger un dîner, et vous devez le comprendre aussi, surtout dans un cadre de perte de poids, vous devez comprendre aussi que l'alimentation, c'est pas juste ça va avoir quel impact sur mon physique si je mange ça ou ci ou ça. Non, c'est aussi, ça prend en compte, ça englobe quelque chose de plus large qui est quel est le contexte dans lequel vous prenez vos repas, avec qui vous mangez vos repas, à quelle vitesse vous mangez vos repas, quelles émotions vous ressentez en mangeant votre repas, quel partage social ça implique, etc. etc. Donc, pour des raisons évidentes, à savoir, je ne mange pas de malbouffe quand je suis seul, il se trouve que ces repas qui sortent du cadre sont la moitié du temps considérés comme malsains. Et au bout du compte, on arrive sur le ratio que je partage depuis longtemps avec le rééquilibrage alimentaire, à savoir 85% de vos calories devraient être couvertes par des aliments bruts, non transformés et riches en nutriments, tandis que les 15% restants devraient être beaucoup plus flexibles. Comme d'habitude, la notion de compromis reste centrale et j'aime bien résumer ça à une seule phrase. Je préfère et je savoure toujours plus une pizza par semaine quand je pèse 75 kg que 4 pizzas par semaine quand j'en pèse 90. Parce que... Eh oui, je viens de boire de l'eau. En fait, ça fait un moment que l'épisode a commencé, j'avais complètement loupé. Ah oui, d'accord, ça fait déjà une heure. Donc, je préfère... Eh, c'est l'épisode 93, ça fait 15 mois. Ça se trouve, il n'y aura pas de podcast pendant 15 mois. Autant qu'il dure une heure et demie, non? Donc, je répète, c'est très important. Je préfère et je savoure toujours plus une pizza par semaine quand je pèse 75 kg que 4 pizzas par semaine quand j'en pèse 90. Parce que j'ai hiérarchisé la place de l'alimentation dans ma vie. Ça peut paraître calculé, ça peut paraître excessif d'avoir un tel niveau de conscience et de maîtrise, mais je le vois à l'opposé. C'est intentionnel et ça augmente mon niveau de responsabilité vis-à-vis de la trajectoire que prennent mes journées, mes semaines et ma vie. Parce qu'un thème commun avec les individus qui suivent mes travaux depuis des années, c'est cette impression de subir son alimentation, d'être relativement esclave de ses pulsions, de ses envies, de se sentir impuissant face à tout ça. Et très souvent, ça vient d'un manque évident de clarté entre la perception d'un élément et son rôle concret dans votre vie. Alors voilà comment je hiérarchise la nourriture dans ma vie et probablement que vous pouvez vous en inspirer pour créer votre propre hiérarchie. Numéro 1, tout en haut, ce que je mange doit contribuer à maintenir mon niveau optimal de forme physique. Autrement dit, couvrir mes besoins nutritionnels, conserver mon poids de forme, me permettre d'avoir suffisamment d'énergie à l'entraînement, avoir une bonne digestion, bien dormir et être en forme de façon globale. C'est le premier filtre de mon alimentation si je suis en vue aérienne et que j'ai le spectre complet de toute mon alimentation devant moi. La première question, c'est « Ok, est-ce que tout ça qui représente l'intégralité de mon alimentation, ça permet, ça contribue à maintenir mon niveau de forme optimal et à être en bonne santé de façon générale ?» Oui, super. Deuxième filtre, ça doit correspondre et être en cohérence avec mon rythme de travail. Donc, alors, attends. Je dis « attends » alors que personne ne m'a arrêté. C'est moi qui suis reparti. Donc, une des premières questions que vous devez vous poser quand vous regardez votre alimentation de façon globale. Si pour vous, c'est très important de bien dormir, d'être en bonne santé, d'éviter les maladies, en tout cas de les repousser le plus loin possible dans votre vie, d'être en forme à l'entraînement, de bien digérer, d'avoir de l'énergie et d'être globalement à votre niveau de poids de forme, la question que vous devez vous poser devant chaque repas et devant l'intégralité de votre alimentation, c'est est-ce que manger tout ça de façon globale, ça me permet de répondre à cet objectif numéro 1 pour moi qui est d'être en forme physiquement, maintenir mon poids de forme. Si oui, tant mieux, je continue. Sinon, il faut faire des réajustements. Est-ce que ça veut dire dégager tous les Kinder? Non. Ça veut peut-être dire, puisqu'ensuite on va voir le reste de l'hierarchie, ça veut peut-être dire dégager 2 Kinder sur 3. En garder un seul. Parce que manger 3 Kinder, ça ne marche pas. Pour le premier filtre de ma hiérarchie, ça ne me permet pas de maintenir un poids de forme. Mais manger un Kinder, ça me permet de maintenir mon poids de forme. Et toute la subtilité, elle est là-dedans. Elle est dans le compromis et la réadaptation globale de votre alimentation. C'est pour ça que ça s'appelle le rééquilibrage alimentaire. Numéro 2, sur l'échelle de hiérarchie, correspondre et être en cohérence avec mon rythme de travail. En gros, je fais la majorité de mon boulot assis face à l'ordi entre 6h et 13h. Puis en début d'après-midi, c'est-à-dire grosso modo 14 à 15h. Ça veut dire que je ne peux pas consacrer 2 heures à mon petit-déj pendant ma phase la plus productive de la journée. Ça veut dire que je ne peux pas prendre un petit-déj très exigeant sur le plan digestif. Donc à nouveau, quand je regarde toute mon alimentation globale, je dis ok, est-ce que c'est valable de passer 1 heure? Donc si ça correspond, tout ça correspond à mon poids de forme, etc., ma santé, ok. Deuxième point, deuxième échelle, deuxième marche de l'analyse, c'est est-ce que c'est possible pour moi de passer 1 heure à faire mon petit-déj? Non, pas possible, parce que je suis productif le matin. Donc, en plus, il faut que mon petit-déj ne dure que 10 minutes. Ok, je valide. Une fois que c'est fait, je peux réadapter le reste de mes repas. Et donc, pour vous, ça peut être autre chose. Ça peut être, tiens, j'ai pas envie du tout de cuisiner plus que 40 minutes dans la journée. Et donc là, vous réadaptez tous vos repas. Parce que si vous vous mettez à suivre un régime, je ne sais pas lequel, peu importe, qui implique de faire des recettes pendant 1h30 par jour, de préparer vos repas, etc., et que vous dites, ok, c'est mon régime, il faut que je le suive, il faut que je le suive pour perdre du poids. Qu'est-ce qui va se passer après une semaine? Si vous, ça vous saoule de cuisiner plus que 40 minutes par jour, vous allez lâcher. Donc, rééquilibrage alimentaire, ça veut dire adapter l'alimentation à votre vie actuelle et pas l'inverse. Rééquilibrer votre alimentation en fonction de votre vie actuelle et pas réadapter votre vie en fonction de l'alimentation idéale qu'on vous vend comme étant pour perdre du poids. Voilà. Troisième marche de la hiérarchie, en plus de me donner de l'énergie de correspondre à mon emploi du temps, il faut que mes repas me plaisent. Je ne veux pas me forcer à manger des aliments que je n'aime pas. Je ne veux pas sortir de table en ayant faim. Je veux conserver une notion de plaisir gustatif, mais efficace en mangeant. La plupart de mes repas sont neutres, dans le sens où je suis content de manger parce que j'ai faim. J'aime la nourriture que je mange, mais ce n'est pas le moment le plus incroyable de ma journée. Qui est incroyable, c'est le cadre au-dessus du repas, à savoir tout ce qui en découle en termes de qualité de vie liée à une nutrition correctement calibrée. Donc, poids de forme, etc. Ensuite, correspondre à mon emploi du temps. Ensuite, quand j'arrive à table, je veux que ce soit bon et qu'il y ait des portions qui correspondent à mon appétit. Voilà. En fait, c'est extrêmement simple. Là, je fais des paragraphes pour que vous puissiez comprendre tout ça, mais en gros, ok, ça doit correspondre à mes besoins caloriques, mes besoins nutritionnels, protéines, fruits, tout ça. Ok, facile. Facile en théorie, sur le papier. Ensuite, ça doit correspondre à mon emploi du temps. C'est-à-dire que je ne veux pas cuisiner 2 heures par jour, je ne veux pas ça, je veux que ça corresponde au rythme de mes journées. Ok, facile, il faut réadapter en théorie. Ok, maintenant, on passe à la pratique. Il faut commencer à manger. Ah merde! En fait, pour couvrir mes besoins, j'ai dû mettre des betteraves et des choux-fleurs, mais je déteste ça. Voilà, donc là, il faut réadapter à nouveau. Troisième marche de l'escalier, c'est qu'il faut que ça corresponde à mes envies et mes goûts. Ok, donc j'adore le riz. Ok, super, je vais manger du riz régulièrement. J'adore le bœuf et c'est super, ça couvre mes besoins nutritionnels en plus. En fer, en vitamine B12 et tout ça. Ouah, génial, je vais mettre du bœuf régulièrement. J'aime bien les œufs, super, je vais mettre des œufs régulièrement, etc. Et donc, comme ça, on construit un peu comme des Legos. Je peux enlever, je peux en remettre, je peux en mettre d'autres jusqu'à ce que ça corresponde parfaitement à l'alimentation qui est adaptée à votre vie, vos envies, votre objectif, vos besoins. Et puis, quatrième point, je ne veux jamais ressentir de frustration arbitraire. Refuser une pizza juste parce que ce n'est pas l'idéal, c'est non. Refuser, alors, et là la subtilité elle est importante, Refuser une pizza parce que ça va détruire ma forme physique, c'est un refus cohérent. Refuser une pizza parce que ça va m'empêcher de bosser, c'est un refus cohérent. Mais refuser une pizza alors que ça n'aura pas d'impact significatif, alors que j'en ai envie, alors que c'est viable, mais juste parce que bouffer du bœuf avec des légumes, ce serait mieux, c'est incohérent pour moi. C'est-à-dire que chaque choix qui ne met pas à mal, qui n'ébranle pas les trois premiers paliers de votre hiérarchie, mais que vous refusez juste par principe alors que vous le vouliez, juste par principe de c'est de la malbouffe, c'est pas bien, c'est là que la frustration se crée. Alors que moi, je refuse cette frustration arbitraire. Je dis, tiens, je mangerais bien une pizza. Quand est-ce qu'on est ? On est le matin. Ah non, pas possible, ça va m'empêcher de bosser. On est le midi. Ah non, pas possible, je ne vais pas pouvoir bien m'entraîner. On est le soir. Ok. Est-ce que j'arrive à faire rentrer tout ça dans le cadre de mes besoins caloriques ? Ouais. Est-ce que ça va me faire plaisir ? Ouais. Est-ce que ça va m'empêcher de bosser ? Bah non, de toute façon, je ne bosse pas après 21h. Est-ce que ça va m'empêcher de m'entraîner ? Non. Est-ce que ça va me faire grossir ? Non, ça correspond à mes besoins caloriques. Ok. Ouais, mais c'est de la malbouffe. Faut que tu manges du bœuf et des légumes. Non, j'ai pas envie, j'ai envie de manger une pizza, je mange une pizza. Est-ce que ça peut être 3 pizzas par semaine ? Ouais, tant que ça détruit pas la hiérarchie et tant que ça annule pas les marches précédentes de la hiérarchie, je peux manger 3 pizzas par semaine. Et je l'ai fait. Non, pas 3 pizzas par semaine. Mais à Bangkok, le mois dernier, il y a très bien eu des fois où j'ai mangé un burger le mardi soir, une pizza le jeudi soir et où j'ai bu de l'alcool le week-end. C'est beaucoup, mais ça marche. Et avec le temps et l'expérience, cette hiérarchie et ce tunnel de réflexion est complètement automatisé dans ma prise de décision et je n'ai jamais besoin d'y réfléchir. Si j'ai mangé une pizza mardi soir et qu'on m'invite à en manger une le mercredi, 9 fois sur 10, je n'aurais pas du tout envie d'y aller par connaissance concrète des conséquences physiques. Autant de glucides et de sel un deuxième soir, ça va sûrement altérer la qualité de mon sommeil et de ma digestion, donc mes performances, physiques et intellectuelles. L'investissement est mauvais. Le plaisir que je vais prendre à manger une deuxième pizza sera beaucoup moindre que le plaisir et les conséquences négatives à payer. Seront beaucoup plus importantes que la première pizza. Il n'y a aucun effort à faire pour refuser. C'est juste logique et aucunement frustrant. Là où c'est frustrant, c'est si vous n'avez pas de cheminement de réflexion rationnelle et ancré pour refuser. Si toute la hiérarchie et l'échelle de valeur que je vous ai décrite pour mon cas n'existent pas dans votre vie, le refus de la pizza ressemble juste au refus d'un caprice. Ça vous frustre et ça paraît injuste. Comme un enfant de 2 ans à qui on interdit un autre cookie. C'est super bon, c'est délicieux, c'est sucré, il adore ça. Il en veut un autre, mais sa mère refuse. Pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est horrible, j'ai faim, j'en veux d'autres. Frustration. Eh bien, c'est pour son bien. Mais il ne percute pas. Comme votre partie reptilienne du cerveau ne percute pas quand vous refusez une deuxième pizza. Sauf que si elle se heurte à un raisonnement logique et cohérent du cortex, ça fait sens. Si elle se heurte à une justification bateau du style « pizza interdit car régime », c'est frustrant, comme le gosse qui comprend rien. Si vous avez des règles arbitraires de consommation, de non-consommation ou de refus systématique de la malbouffe, ça va vous faire péter un câble à moyen et long terme. Non, pizza pas bien, je peux pas manger pizza. Pourquoi ? Parce que c'est de la malbouffe. Mais je connais plein de gens qui mangent de la pizza. Rien de mal, il mange de la pizza, il est en bonne forme physique. Oui, mais moi, pas pouvoir. Moi, je suis au régime. Moi, je veux perdre du poids. Il y a des gens qui sont au régime et qui perdent du poids en mangeant des pizzas. Ouais. Et voilà. Et c'est une restriction, une frustration arbitraire. Et donc, ça n'est pas justifiable par un raisonnement ancré et solide, comme je vous l'ai détaillé dans les hiérarchies. Et c'est la même chose quand vous l'acceptez. Vous dites, ok, je mange la pizza. Je mange la pizza. Oh non, j'ai fini de manger la pizza. Je sens que la peau de mon ventre est un peu tendue. Je suis un peu ballonné. Oh non, j'ai fait une erreur. Je vais grossir, etc. C'est horrible. Mais non, tu vas pas grossir. Tu as mangé 900 calories. Le reste de la journée, tu en as mangé 800. Ça fait 1700 calories. T'es encore dans le cadre de ton déficit calorique. Ouais, mais non, c'est une pizza, c'est trop malsain, ça fait grossir. Non ! Ça correspond à tes besoins caloriques, ça va ? Donc tu ne les dépasses pas. Et cette notion de rationalisation de tout le processus de votre perte de poids, il est extrêmement important et c'est une carence énorme chez la plupart des individus qui maigrissent en mode automatique, je suis un régime, j'applique pas, ça marche pas, je maigris pas, je comprends pas pourquoi, je regrossis, je suis frustré. Alors que le fait de prendre le temps de hiérarchiser, c'est toute sa relation à la nourriture. Dire, ok, à quoi ça me sert de manger? Pourquoi je dois manger comme ça? Comment ça se fait que je dois manger telle portion? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Comment je réajuste tout ça par rapport à ma vie, mes envies, mes besoins? Eh bien, ça rend tout le procédé de perte de poids limpide. Et chacune de vos décisions est limpide. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez jamais avoir besoin de faire de compromis? Non! Est-ce que ça veut dire que vous n'allez jamais être frustré? Non! Ça veut dire que vous aurez une justification rationnelle et concrète pour chacune des décisions que vous allez devoir prendre. Et si jamais vous craquez, si jamais vous loupez, si jamais vous mangez quand même la pizza alors que vous en avez mangé une la veille, ok, il y aura probablement de la culpabilité, il y aura probablement du regret, mais au moins vous savez d'où ça vient et vous savez où vous avez merdé. Et ce n'est pas deux semaines plus tard, en se pesant et en ayant pris 1,5 kg, vous dites « Ah, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. » Non, là, c'est « Ah oui, c'est parce que j'ai mangé trop de calories. » Et tout ça, ça doit entrer dans un schéma de réflexion où vous arrivez à faire la différence réelle entre aimer ce que vous mangez, apprécier un repas sur le plan gustatif et essayer de choper un maximum d'orgasme culinaire à chaque repas comme si c'était la norme. En entrant la hiérarchie dans la matrice, la prise de décision s'aligne naturellement avec vos objectifs à moyen et long terme. Si je pense en termes de pur plaisir gustatif, je mange des frites. Si je pense dans la matrice de la perte de poids à long terme, j'aime aussi le riz et les légumes sur le plan gustatif et c'est moins calorique et ça m'aide à avancer et je digère mieux et je suis en meilleure forme, etc. En sortant du réflexe animal indexé uniquement sur les papilles et le shoot de dopamine, la frustration recule sérieusement. Grâce à la contextualisation, grâce à la hiérarchie, je ne suis jamais frustré pendant mes repas, même s'ils se ressemblent tous de très proches. La frustration que vous ressentez pendant une phase de perte de poids provient toujours d'un désalignement entre votre hiérarchie de priorités nutritionnelles et votre expérience pratique de l'alimentation. Si vous dites que pour vous, le plus important par-dessus tout, c'est d'atteindre votre poids de forme pour être en meilleure santé et vous sentir à l'aise dans votre peau, mais que vous pétez un câble et que c'est horrible de ne manger que 200 g de frites plutôt que 500 g parce que vous n'arrivez pas à sortir de table sans être gavé à ras-bord, il y a une frustration de malhonnêteté. Vous remplir à ras-bord et manger un max de frites, peu importe les conséquences, est en vérité plus important que d'atteindre votre poids de forme. Et là, c'est à vous de changer vos valeurs, de forcer le jeu, de faire le boulot pour aligner vos actions avec votre objectif. Et c'est le bon moment pour placer une phrase géniale que j'ai lue dans un mail de James Clear récemment. Et cette phrase, c'est « Est-ce que les résultats que j'espère s'alignent avec les habitudes que j'applique tous les jours ?» Et pensez-y sincèrement. Si le résultat que vous espérez, c'est de jouir gustativement le plus possible de chaque aliment que vous ingérez, de maximiser le plaisir alimentaire à chaque opportunité qui se présente, eh bien, c'est OK. Dans ce cas, les habitudes seront remplies d'aliments très caloriques et avec un énorme niveau de palatabilité. Mais, donc, si le résultat que vous espérez, c'est de jouir et de manger les meilleurs aliments constamment, de bouffer énormément de sucre, de sel, de calories, si votre objectif c'est de bouffer plein de malbouffe pour choper un maximum de plaisir et de dopamine, alors c'est d'accord. Toutes vos habitudes seront remplies de malbouffe, de curly, de chipster, de bonbons, de chocolat. Ok. Donc, je répète, les habitudes, les résultats que vous espérez s'alignent avec les habitudes que vous appliquez tous les jours. Résultat espéré, jouir de la bouffe. Habitude, manger plein de malbouffe. Point barre. Par contre, n'ayez surtout pas l'arrogance de croire que vous méritez ou qu'il est possible de maximiser à 100% le plaisir gustatif et d'avancer dans une perte de poids qui implique une restriction calorique. D'où l'intérêt d'éviter le manger varié juste pour manger varié. C'est pour ça que je vous recommande vivement de faire une planification pour ne pas sortir du cadre. Si il y a de la prédictibilité, il y a de l'apaisement et moins de place pour des décisions émotionnelles. Moins de place pour des décisions qui ignorent totalement la vision à moyen et long terme au profit des bénéfices immédiats. Sans aller aussi loin que bouffer toujours la même chose en couvrant vos besoins. vous avez sûrement intérêt à structurer des patterns de repas, comme on l'a vu au début de l'épisode, avec les 8-9 repas qui comptent pour la majorité de vos calories. Et je sais bien qu'il y a cette espèce d'idéologie qui pousse à croire que la routine, c'est mal, la routine, c'est la mort, la routine, c'est ennuyant, qu'il faut être spontané et profiter de la vie et ne pas vouloir tout prévoir ou tout calculer. Ouais. Sauf que c'est caricatural et c'est un comportement de bébé sans responsabilité. C'est aux antipodes de la réalité. La réalité, c'est que la discipline et la routine apportent la véritable liberté. Si vous êtes uniquement dans l'émotion et l'imprévu et la spontanéité, vous devenez esclave de vos pulsions et de vos obligations qui se manifestent souvent dans les pires moments. Quand vous calculez et définissez des éléments clés dans votre vie, c'est exactement là que vous pouvez libérer des moments véritablement libres, sans contrainte, pour faire des choses plus importantes qui comptent pour vous. Si votre nutrition est structurée et prédictible pour 80% des repas, vous n'avez jamais besoin de penser à ces repas. Donc, vous êtes libre de penser à d'autres trucs plus importants. Vous n'avez plus besoin d'allouer de motivation et de volonté pour ces repas. Donc, vous êtes libre d'allouer votre volonté et votre motivation pour des trucs plus importants. D'ailleurs, tout ce qui vous réclame de la motivation et de la volonté au quotidien devrait être remplacé par de la logistique pour assurer la réussite à long terme. Et au risque de me répéter, c'est exactement le principe des fiches repas rééquilibrage alimentaire qui dégage toutes les notions théoriques, les notions de réflexion, de doute, d'incertitude, de calcul, d'improvisation. C'est juste à les suivre pendant 5 minutes par jour et c'est plié. Consacrez votre temps à des trucs plus importants. Donc, en bout de raisonnement, on arrive sur l'objection principale à laquelle certains croient dur comme fer. Celle selon laquelle rien de rationnel n'est applicable à la nutrition puisque l'alimentation ne l'est pas. Le fait de se nourrir est soumis à des mécanismes organiques de survie que le corps est capable de se débrouiller pour les signaux et que tout ça est contre nature et qu'il sait ce qui est bon pour nous et que ça fait des millions d'années qu'on est là, donc votre corps, votre organisme, il est plus évolué que votre cerveau rationnel, donc vous savez quoi manger, vous savez comment manger, il faut écouter son corps quand il a faim, il faut l'écouter quand il est fatigué, il faut l'écouter quand il n'a pas envie, quand il a la flemme, etc., etc. Non, ça fonctionne quand il n'y a aucun élément de corruption des signaux autour de vous. Autrement dit, ça fonctionne il y a 50 000 ans. Mais s'il y a des chipsters à 89 centimes le paquet dans le Leclerc, et s'il y a un outil technologique qui vous permet de commander une pizza à 1700 calories juste en le sortant de votre poche et en cliquant sur deux boutons, votre corps ne sait plus ce qui est bon pour vous. Désolé, compter ses calories, c'est comme compter votre budget shopping. Personne ne trouve ça contre nature ou malsain de gérer un budget. C'est responsable, c'est adulte, c'est une bonne chose. Vous faites attention à vos dépenses pour assurer la stabilité économique de votre foyer, pour être sûr qu'il reste assez de sous pour payer vos charges, pour habiller vos enfants, pour payer la licence de sport de votre fille. Ok. Pourquoi gérer son apport calorique serait autre chose qu'un acte responsable pour assurer la stabilité de votre santé à long terme? Parce que ça l'est. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un sac à 12 000 euros, vous ne le faites pas. Parce que ça mettrait en danger la stabilité économique de votre foyer. Logique, vous êtes un adulte responsable, donc vous n'achetez pas un sac à 12 000 euros si c'est hors budget pour vous. Si vous ne pouvez pas vous permettre de manger 4 pizzas par semaine, ne le faites pas. Ça mettrait en danger vos indicateurs de santé et ça vous expose à des complications évidentes dans les 3, 5, 10 prochaines années. Pareil, même principe. Si vous savez gérer un budget économique, vous avez les compétences concrètes et transférables pour gérer un budget calorique. Il faut faire sauter la notion de sacré autour de la bouffe. Elle n'a plus lieu d'être. C'est juste un confort mental pour justifier des comportements qui ne tombent pas sous le coup d'autre chose que les pulsions. Il faut détacher la notion du plaisir gratos et sans conséquence qui n'est qu'illusion. Ce n'est pas parce que vous ne payez pas immédiatement les conséquences qu'elles n'existent pas à moyen et long terme. Ce n'est pas parce que vous achetez le sac à 12 000 balles en faisant un crédit Cofidis que l'argent ne finira pas par vous être réclamé. Ok, aujourd'hui, vous avez le sac à main à 12 000 balles sans rien avoir claqué. Vous avez fait un crédit, C'était pas votre argent. C'est bon. Il n'y a pas de conséquences. J'ai eu le sac à main, 12 000 balles. Je suis heureux. Mais à partir du mois prochain, les conséquences arrivent. Et elles sont lourdes. C'est pour ça que la voie du milieu est la bonne. Le compromis entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Si c'est un sac sympa à 90 euros, c'est le compromis entre le plaisir à court terme et la stabilité économique à long terme. Le compromis entre ce que vous aimez manger et aimer le résultat que ça produit sur votre corps, si c'est une pizza cette semaine et pas trois, c'est le compromis entre plaisir à court terme et la progression vers votre objectif à long terme. Et ça faisait des années que je n'avais pas ressenti ça, que je n'avais pas ressenti aussi violemment l'impact de la nutrition et du sport sur mon humeur. Quand on est arrivé à Manille le samedi, je n'avais pas fait de sport depuis le jeudi. Je manquais un peu de sommeil et surtout on a mangé que des plats dégueux qui ne couvraient pas mes besoins du tout. Jusqu'au lundi après-midi, j'étais d'une humeur exécrable, avec peu d'énergie, pessimiste, tendance déprimée, insupportable. Alors qu'immédiatement après avoir mangé un repas délicieux et sain le lundi soir, après m'être entraîné dans une bonne salle de muscu, je suis devenu un autre homme. Toutes les pensées et attitudes négatives ont dégagé. Et il y a aussi des coups invisibles que vous ne voyez pas par l'absence de contraste. Si vous êtes constamment dans le brouillard lié à une alimentation sous-optimale, gérée uniquement par les émotions plutôt que par des décisions réfléchies et rationnelles, vous ne savez même pas ce qu'il y a de l'autre côté. Vous ne savez même pas à quoi ressemble votre esprit et vos capacités quand vous tournez à 100%. Et pour moi, c'était carrément au niveau de l'alcool, le truc. J'ai passé 72 heures dans un état de gueule de bois lié au manque d'entraînement et lié à une nutrition pourrie. Donc voilà pour le bilan. Manger varié est une connerie. Ce qui compte, c'est de couvrir vos besoins nutritionnels. En mangeant ce qui vous plaît, dans le cadre d'une hiérarchie claire, précise du rôle de votre alimentation pour votre vie actuelle et future. Un compromis entre ce que vous voulez faire immédiatement et ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif doit exister. Construire et entretenir une structure simple pour vos repas et prédictible, c'est une bonne idée. Au bout du compte, je pourrais conclure tous les podcasts, dont celui-ci qui est relativement long, en disant que les fiches repas rééquilibrage alimentaire résolvent tous les problèmes d'ordre logistique liés à votre perte de poids. Et donc, en grande partie, tous ces problèmes liés à l'alimentation variée ou pas, l'improvisation, la prédictibilité, etc. Les fiches repas, elles font déjà ça pour 7000 personnes qui s'en servent. La difficulté majeure, c'est évidemment qu'il faut les suivre et les appliquer et pas juste les laisser en déco sur le frigo. Pour ça, le podcast peut aider, c'est certain. Mais en ce qui concerne la pratico-pratique de votre perte de poids, je vous recommande chaudement d'utiliser les fiches repas en allant à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com/fiches. Toutes les histoires de composition de repas, de priorité, de calcul, de hiérarchie et de théorie, ça dégage avec les fiches. Vous faites la seule chose qui compte vraiment, la pratique. Et finalement, on peut même dire que vous venez d'écouter un podcast d'une heure et demie, alors que toute la solution pratique se trouve dans les fiches repas. Mais bon, vous pouvez adapter tout ça avec vos propres outils. Là-dessus, maintenant que tout ça est terminé, peut-être qu'on se retrouve dans 15 mois pour l'épisode 94, peut-être avant. Et tant qu'on est au bout de celui-là, qui dure une heure et demie, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur Facebook pour me dire que vous avez écouté celui-là jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de personnes, après 15 mois d'absence et le retour avec un podcast d'une heure et demie, combien de personnes seront vraiment restées jusqu'au bout, je ne sais pas. C'est cool et ça me permettra de mesurer la diffusion du podcast après plus d'un an d'activité. Sur ce,